Jacques-Antoine Breteil, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le président de la financière ICG. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Dans quelle configuration, on pourrait dire, êtes-vous aujourd'hui quand on voit ces marchés actions hein, qui, avec tous ces flux, vous vous sentez à l'aise, vous?
Non, justement, vous parlez de flux, c'est presque un problème de plomberie. Vous avez d'un côté des flux qui se déversent sur les marchés, qui viennent essentiellement des banques centrales, qui ont alimenté cette hausse depuis maintenant 5-6 mois. Qui continue et qui continue d'autant plus qu'il n'y a pas apparemment aujourd'hui de placement alternatif. Donc vous avez cette espèce d'engorgement sur les marchés qui fait que les cours ont été tirés à la hausse et souvent sans rapport avec la réalité. Moi, ce que j'aime pas, si vous voulez, c'est qu'il y ait une distorsion trop forte entre la sphère économique réelle et la sphère financière. Or, aujourd'hui, je crois que depuis 1987, avant le krach, on n'a jamais vu ça. Donc je suis en position inconfortable, j'ai fait pas mal de liquidités, mais malheureusement pas au top, puisque les marchés ont continué, mais j'ai beaucoup de liquidités, entre 30 et 40% de liquidités, que j'espère pouvoir mobiliser dans les semaines qui viennent, justement à la faveur d'une correction du marché ou d'une phase de respiration du marché que tout le monde attend finalement.
Oui, l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'on l'attend, elle n'arrive pas, et on voit ces progressions sur les marchés actions qui continuent, ces flux qui sont toujours là.
Ces flux sont toujours là, d'autant plus que vous avez maintenant les fonds d'investissement qui commencent un petit peu à se délester du marché américain, qui viennent vers les marchés européens. Et ça continue à alimenter cette hausse que je considère un peu comme artificielle. Donc le jour où effectivement les résultats de société seront plus en adéquation avec les niveaux des cours, là, je pense qu'il y aura un mouvement de repli assez sévère, un mouvement de correction qui sera certainement pas neutre.
De votre point de vue, c'est plutôt aux États-Unis, avec notamment la hausse du dollar, qu'on devrait avoir de mauvaises surprises?
Je pense qu'on aura des mauvaises surprises du côté américain, alors que personne ne s'y attend. Donc c'est probablement là une mauvaise nouvelle qui risque de guider les marchés dans la deuxième partie de l'année. Donc je suis très très méfiant sur les États-Unis. Moi, j'ai plus de position américaine que des positions européennes. Et bon, ça peut prendre un certain temps, mais je pense qu'on risque d'être déçu.
Alors, on a toujours entre guillemets, les mêmes risques, notamment du côté de la Grèce. Bon, ça, on voit que ça discute, on voit que
Oui, mais
ça.
justement, tout ça a été occulté jusqu'à présent. Or, le problème grec n'est pas réglé, le problème ukrainien n'est pas réglé. Vous avez des tas de problèmes qui ont été mis un peu sous le tapis, et ces flux d'investissements qui sont venus ont complètement occulté la réalité. Ce qui fait qu'un jour, on va se réveiller avec un gros problème.
Alors c'est vrai que de l'autre côté, du côté des marchés obligataires, on voit ces niveaux de taux. On commence à avoir un peu de réaction quand même hein, sur les taux allemands. Mais on a surtout mis en avant le fait que la Banque Centrale Européenne avait réussi son programme de quantitative easing, même peut-être plus vite que prévu.
Beaucoup plus vite que prévu. Et c'est vrai que M. Draghi a pris le taureau au moment où il fallait le prendre. Et ce fait d'injecter des liquidités à la suite de la Fédérale Réserve américaine, de la Banque de Chine, de la Banque du Japon, de la Banque britannique. Donc toutes les banques centrales se sont mises quasiment à l'unisson, ce qui fait qu'effectivement, ce déversoir est devenu quasiment planétaire. Mais vous avez raison de dire qu'il commence à se passer quelque chose sur les marchés de taux. D'abord parce qu'on a le sentiment que le point d'inflexion bas a été dépassé et que cette fois-ci, les taux ne peuvent que remonter, ce qui va probablement se passer. Alors, on n'a pas de calendrier, on ne sait pas exactement. Je pense que c'est la Réserve fédérale américaine qui appuiera sur le bouton la première. Alors, est-ce que c'est à la rentrée? Est-ce que c'est à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine? Personne ne sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le jour où les taux d'intérêt vont commencer à remonter de manière manifeste, bon, aujourd'hui, on sent qu'il y a effectivement ce point bas qui a été touché, mais le jour où les taux vont commencer à remonter sérieusement, là, vraisemblablement, je pense qu'il y aura une prise de conscience pour le marché des actions.
Alors on a commencé aussi, et ça nous rappelle les souvenirs des années 2000, à voir des articles parlant des Français qui s'intéressent à la bourse, des gens qui n'avaient pas d'actions s'y intéresser. Ça peut
Ça
être
sent pas
symptomatique.
bon, ça sent pas bon. C'est toujours comme ça que ça se termine, un cycle. C'est toujours, si vous voulez, le Pékin qui met un doigt dans la confiture et qui finalement se fait enfermer le pot sur les doigts. Donc je méfie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis, en ce moment, j'ai l'impression que, y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes et beaucoup de points d'interrogation qui risquent de marquer la deuxième partie de l'année.
Alors on pourrait dire, pour ajouter à cette question, comme il y a eu beaucoup de flux, quand les flux effectivement bougent sur les indices, sur les actifs, les classes d'actifs, ça se sent de manière effectivement spectaculaire.
Ah bah oui, ça c'est évident. On a changé de mesure, on a changé de monde. On est dans un autre monde. Et le fait qu'effectivement, pour le moment, on a canalisé ces énormes flux d'investissement sur les marchés d'actions, bah, ils se sont envolés. Mais le jour où les taux d'intérêt vont commencer à monter, je pense qu'il y aura des réallocations d'actifs vers les marchés obligataires. Ce qui me fait dire qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir de gros soucis sur les marchés actions.
Alors, on a aussi, faut le prendre comme une déclaration, ce qu'a dit Christian Noyer, là, récemment, le gouverneur de la Banque de France, qui dit, finalement, les taux bas, il y en a au moins pour 18 mois. Donc, on se reprojette. Alors, on parle de l'Europe, hein, bien entendu. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire, quand il dit ça, c'est peut-être exact, sauf qu'il y a ce qui va se passer aux États-Unis, entre-temps?
Moi, je pense que de toute façon, les taux vont remonter, effectivement. Alors, calendrier, je vous dis encore une fois, je ne sais pas. Mais à partir du moment où ils ont commencé à remonter aux États-Unis, ça aura forcément des implications immédiates au niveau européen, forcément. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra mesurer l'impact, justement, de cette hausse de taux sur les marchés européens.
C'est-à-dire qu'on peut continuer à dire qu'ils vont rester bas, sauf qu'ils auront quand même bougé.
Ils auront certainement bougé. Et bien sûr, on ne retrouvera pas des taux de 7% ou de 6%, c'est clair. Mais à mon avis, on peut raisonnablement imaginer que les taux longs seront à 3-4%. Ça, ce n'est pas du tout impossible. Et je peux vous dire qu'entre 0 et 3-4%, c'est là aussi un monde différent. Donc ça peut avoir des implications malheureusement assez sanglantes sur les marchés.
Particulier qui aujourd'hui aurait raté quelque part ces mouvements qu'on vient de rappeler, qu'on vient d'évoquer ensemble. Aujourd'hui, il a intérêt à attendre.
Aujourd'hui, il aurait, à mon sens, plutôt intérêt à attendre, ou en tout cas être très sécuritaire. Alors, il y a deux, trois titres que moi, je veux justement... Il faut parler du rendement aussi, parce que finalement, quand vous n'avez plus d'intérêt sur les taux, voir un peu le rendement. Et vous avez sur la cote aujourd'hui des taux de dividendes de 4-5% sur des EDF, sur des Gaz de France, qui ne s'appellent plus Gaz de France, qui s'appellent Engie maintenant, qui sont sécurisés et qui, à mon avis, devraient pouvoir se mettre un petit peu en avant, alors que justement, c'est des titres qui n'ont rien fait depuis le début de l'année. Donc ça, c'est effectivement le genre de titre que je pense qu'on peut mettre en portefeuille sans trop de risques.
Mot de la fin, une valeur emblématique que vous aimiez bien, Alcatel-Lucent, qui va passer, si ça se fait, sous contrôle de Nokia, donc une fusion. L'actionnaire, il s'en sort bien s'il participe à ce projet?
Alors justement, il s'en sort bien, oui et non. C'est-à-dire que, vu le contexte, effectivement, c'est une belle opération pour l'actionnaire. Ceci dit, j'ai l'impression que les dirigeants d'Alcatel se sont un petit peu fait avoir dans la mesure où les résultats de Nokia qui sont sortis sont mauvais. Je pense que de toute façon, personne n'imaginait qu'il allait être très bon. Mais enfin, là, ils sont mauvais. Ce qui a plombé les deux titres, puisque maintenant il y a une parité qui s'opère, et ça les actionnaires d'Alcatel ne le supporteront pas très longtemps. Donc à mon sens, les résultats d'Alcatel vont pas tarder à sortir. S'ils sont très bons, comme moi je le suppose, à ce moment-là les actionnaires vont se rebiffer et vont redemander un changement de parité.
Voilà, oui, et puis il faut rappeler que on parlait là des actionnaires récents, parce que ceux qui ont connu Alcatel les années 2000, ça c'est sûr.
Mais enfin, de toute façon, certains ont fait des moyennes en baisse, heureusement, et se sortent plutôt pas trop mal.
Merci Jacques-Antoine Breteil.
C'est moi qui vous remercie.